Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va bien.
Bon, regarde, je t'ai même mis la gonnette.
Oh, mais t'es merveilleuse.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération
Podcast.
Génération.
Génération Podcast.
Podcast.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Ça vous est déjà arrivé de vous rendre dans votre application de podcast et de chercher un podcast, prenons l'exemple de Génération Podcast, et de ne pas le trouver? Avec Génération Podcast en particulier, ça m'est arrivé plus d'une fois et il a fallu que je rajoute mon nom de famille, que je rajoute d'autres mots-clés pour me trouver. Comment faire pour que notre podcast finalement soit facilement cherchable et donc trouvable et donc écoutable? Les podcasts qui ressortent dans les 10-15 premiers résultats finalement quand vous cherchez un nouveau podcast à écouter sont des podcasts qui ont effectué un travail méticuleux, conscient ou non, d'utilisation de mots-clés pertinents dans la description de leurs épisodes et dans leurs métadonnées. Et il se pourrait bien que ce soit l'un des thèmes de ma discussion avec Maxime Piquette, CEO et cofondateur de Ocha. En août dernier, la plus grande conférence podcast du monde avait lieu dans ma ville, à Denver, aux États-Unis. L'occasion pour moi de m'y rendre, bien sûr, mais d'apprendre tout un tas de choses aussi sur la création sonore, de découvrir de nouveaux podcasts et de rencontrer dans la vraie vie, in real life, plusieurs acteurs de cet écosystème. Et c'est ainsi que j'ai rencontré la team Ocha, et que j'ai décidé d'enregistrer cet épisode inaugural de la saison en compagnie de Maxime Piquette, cofondateur et CEO de cette entreprise française Ocha. Avec mon invité aujourd'hui, on revient sur l'idée originelle qui a mené finalement à la création de l'entreprise en 2018 et sur son évolution depuis 5 ans en France, en Europe et depuis peu aux États-Unis. Ensemble, on parle du développement d'une audience pour un podcast. Et Maxime souligne l'importance de fournir une expérience utilisateur de grande qualité. Il reconnaît bien entendu que ça ne suffit pas toujours et c'est pourquoi en 2020, lui et son équipe ont développé une méthodologie de marketing du podcast qui consiste à transformer un inconnu en un fidèle auditeur. Avec son équipe, ils réfléchissent aussi à des fonctionnalités qui pourraient aider les podcasteurs à chaque étape de ce processus et la question de l'attribution des écoutes et des téléchargements est une piste de réflexion. Mais tout ça, il va vous l'expliquer bien mieux que moi. Alors place à ma conversation avec Maxime Piquette, cofondateur et CEO d'Ocha. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez Génération Podcast. Bienvenue. Bienvenue dans le Colorado.
Merci.
Comment ça se passe, c'est ta première fois ici?
Ouais, c'est la première fois à Denver.
Ouais.
C'est chouette, il fait hyper beau, il y a des super paysages,
ouais.
C'est très vert. J'aime beaucoup.
Et t'as toujours pas vu les montagnes?
Si, je les ai vues hier. Je les ai vues hier. Écoute, hier, c'était vraiment... On avait l'impression d'être dans un film.
C'est vrai?
Ouais, c'était hyper beau. Tu sais, il y avait une ambiance très bucolique dehors.
Mm-hmm.
On a pris nos chamallows, on les a fait griller sur le feu.
Ah oui, d'accord,
le truc très cliché. Il y avait un super ciel, etc. Enfin, c'était hyper beau, c'était très sympa.
Cool. Ouais. Il y a pire comme condition de travail.
Ouais, c'est clair.
Écoute, avant de parler de Ocha aux États-Unis, moi j'aimerais bien parler de Ocha tout court. First things first, comme on dit ici. Ça veut dire quoi, Ocha?
Audio sharing.
Audio sharing.
Ouais, l'idée en fait de départ, c'était cette idée de dire qu'on voulait aider celles et ceux qui voulaient faire entendre leur voix,
mm-hmm.
ce qui est toujours notre mission, et à la faire entendre réellement, tu vois, mm-hmm. à la partager. D'où Ocha Audio Sharing,
mm-hmm.
qui représente aussi notre valeur et la mission qui est la nôtre.
D'accord, trop bien. Elle a quel âge la boîte aujourd'hui?
En fait, on a commencé à se dire que ça allait être une bonne idée. Je crois que c'était en 2016-2017. On s'est dit, ouais, enfin, on commence à penser à ça. On a commencé à avoir une réelle vision sur l'audio à la demande à l'époque. Et on a vraiment compris à quel point l'audio à la demande allait être important. C'est nous, à l'époque, moi j'étais CEO d'une boîte qui faisait de la radio sur Internet.
Mm-hmm.
Et en fait, on a compris à quel point la radio sur antenne, qui est un flux continu, allait pas être quelque chose qui allait pouvoir perdurer face à du on-demand.
Ouais.
Et notamment, ça on l'a compris, si tu veux, en faisant le parallèle entre la télévision et YouTube. Et on a compris que, en fait, c'était, si YouTube avait un tel succès, et Netflix c'est un peu la même chose, c'est pas tant parce qu'ils sont sur Internet, c'est pas le moyen d'accéder, mais c'est plus la façon dont ils le font, le fait de faire du on-demand, et en même temps, d'avoir aussi plusieurs choses, hein, du catalogue, la possibilité de stopper, reprendre quand tu veux ton programme, de laisser finalement le choix à l'auditeur de faire ce qu'il a envie. Et donc on a démarré Ocha en 2018, après on a commencé on a ouvert vraiment les premières portes d'Ocha en 2018.
D'accord.
Donc ça fait 5 ans.
Et quand tu dis « on », alors c'était qui au début de l'histoire ?
Écoute, moi j'ai cofondé Ocha avec mon associé Charles, qui aujourd'hui dirige Radio King, qui a été racheté par Énergie il n'y a pas très longtemps. Et après on avait une toute petite équipe, on a encore l'un des premiers employés de chez Ocha qui est toujours avec nous aujourd'hui. C'était une toute petite équipe.
Ouais.
Et en fait, on était surtout une équipe de développeurs à l'époque, parce qu'on était très, très, très produits. On voulait vraiment faire un super produit, une super plateforme avant de communiquer, etc. Donc, nos premiers investissements, c'était sur le produit. Et puis après, tu vois, très tardivement, finalement, puisque seulement 2 ans après, on a embauché une première personne en marketing, qui est Jen, notre CMO actuelle aussi. Mmh. Et là, on a commencé à beaucoup plus communiquer.
Alors, tu dis que tu as commencé à avoir l'idée en 2016. Les podcasts existaient déjà.
Mais très peu en France.
Mais parce que j'allais dire,
Binge
l'adoption, en tout cas, n'était pas de masse. Quoi.
Non,
qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette idée, finalement, et que tu t'es dit, parce que 2016, c'était quoi, un an après l'explosion aux États-Unis aussi avec Serial.
Ouais. En fait, c'est vraiment à la fois, si tu veux, à la fois cette vision qu'on a compris en étant nous-mêmes dans le domaine de l'audio.
Ouais.
Et ça nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a compris ça. Parfois, on faisait des salons de radio et on voyait Spreaker à côté, tu vois, qui est notre boîte de podcast.
Mm-hmm.
Et on disait, tiens, c'est intéressant ce truc-là. Et c'est vrai qu'en mettant tout bout à bout, on a vraiment compris à quel point ça allait être quelque chose qui allait devenir de plus en plus important.
Mm-hmm.
Et la deuxième chose qui nous a convaincus de nous lancer là-dedans, c'est quand on a compris à quel point c'était difficile de faire du podcast. Même à l'époque, alors il y avait quand même des plateformes comme Spreaker qui commençaient à faciliter les choses, mais même sur ces plateformes-là, moi je trouvais ça hyper compliqué. On nous parlait
c'était
tout de suite.
C'était très artisanal à l'époque aussi, où chacun faisait son flux.
Ouais,
RSS,
on nous parlait de flux RSS, on comprenait pas exactement comment il fallait le mettre sur Apple, comment tu vois, Spotify était en train d'arriver aussi, il fallait faire des choses à la main, etc. Donc c'était pas hyper clair. Et nous, en fait, on a vu ça, on s'est dit, ça a l'air compliqué, et c'est top parce que ça veut dire qu'on a quelque chose à améliorer, à apporter. Et c'est vraiment notre ADN depuis le début dans ce qu'on fait dans notre boîte, c'est de faciliter les choses.
D'accord.
De rendre des choses techniques super simples et accessibles à tous. Et c'est pour ça qu'on s'est éclaté à se dire, le premier défi qu'on doit faire, c'est de rendre facile la distribution d'un podcast sur toutes les plateformes. Et on a vraiment travailler en ce sens pour faire en sorte que ça soit le plus simple possible pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et encore aujourd'hui, quand quelqu'un démarre dans le domaine du podcast, il va entendre du flux RSS ici, du Apple Podcast,
c'est vrai
que ça
paraît un peu barbare en début.
Et en fait, je pense aujourd'hui que grâce à des plateformes comme Ocha et d'autres, on a facilité ce côté où on vient masquer cet aspect technique que tu n'as pas besoin de savoir et tu peux te concentrer donc sur ton contenu et ton podcast.
Et à l'époque, vous étiez le seul acteur français à vous intéresser, parce qu'aujourd'hui, il y en a deux. Il y a Audiomine, c'est vous, non, c'est ça? Deux.
Qui sont un peu connus, non?
Ouais, parce que sinon, je sais qu'il y en a d'autres, il y a des hébergeurs gratuits aussi. Mais...
En France, tu connais aussi. Alors, ils ne sont pas français, mais il y a Acast qui est assez, connu.
Bien sûr.
Et
ils sont suédois aussi, ça?
Ils sont suédois. Et en fait, en réalité, c'est ça qui est drôle pour l'anecdote. Nous, quand on est arrivé, il y avait déjà une plateforme qui était en place et qui était leader sur le marché.
Ah, ok.
Qui s'appelait Pipa.
Ah oui.
Et ils avaient plein de super podcasts. Je crois qu'ils avaient Binge ou tu vois des trucs comme ça et tout.
D'accord.
Enfin, ils avaient des super podcasts et tout. Et vraiment, ils faisaient un super job. Et en fait, un jour, ils ont été rachetés par Acast. Et depuis ce jour-là, on est devenu leader.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Pour la petite histoire.
Ah, intéressant.
Mais j'ai beaucoup de respect pour ce que c'était Erwan, le CTO de l'époque, avec qui j'ai pu échanger. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait une super plateforme à l'époque, et nous on trouvait ça très bien. Alors nous on a pris un virage qui était différent de ce qu'eux pouvaient faire, mais franchement, ils avaient une très bonne presse, ils faisaient des choses très bien, et c'est vrai qu'après ils ont été rachetés par Acast, et ça a changé un peu je dirais, la vision de la boîte chez eux. Et voilà, donc ça nous a permis, nous en tout cas, d'émerger. Et je pense que c'est, ça fait partie des raisons du succès d'Ocha, c'est que ils ont été rachetés.
C'était au bon moment aussi.
Voilà.
Si tu devais présenter Ocha aujourd'hui et Ocha il y a 5-6 ans,
ouais.
Ce serait quoi les grandes différences, l'évolution?
Ah, c'est hyper intéressant.
Vous faites vachement plus que juste mettre sur Apple Podcast.
Bah, écoute, c'est ça, c'est que je crois qu'il y a 5... Alors, il n'y a pas 5 ans, parce qu'en fait, on a... 5 ans. Au tout début, tu nous aurais demandé, mais c'est quoi la différence avec les autres plateformes d'hébergement? Et c'est ça qui coinçait, c'est de dire...
On est français.
On est français, on a un bon service client et on a une super UX. Mais tout ça, c'est très bien, mais c'est très dur à valoriser.
C'était dur à être... C'est pas si différenciant, ça que tu veux dire?
Non, c'est pas si différenciant et c'est pas game changer pour quelqu'un. Voilà, oui, c'est cool d'avoir un bon service client, c'est important. D'avoir une belle UX, c'est agréable, mais c'est pas, ça te fait pas bouger d'un truc à un autre. Et c'est là où... En 2020, on a décidé de vraiment développer une vision autour d'une mission qui est d'aider celles et ceux qui font du podcast à faire grandir leur audience, à faire croître leur audience. Et on s'est dit, on ne veut surtout pas faire du bullshit, donc on va vraiment déterminer une méthodologie. Cette méthodologie, elle est basée autour du marketing du podcast et notamment de ce que nous, on appelle le funnel de l'auditeur, le tunnel de l'auditeur qui fait passer d'un simple inconnu à un auditeur
engagé.
Fidèle.
Ouais.
Voilà. Et sur chaque step qui font passer cette personne que tu ne connais pas encore vers un auditeur fidèle, on réfléchit sur la façon dont on peut aider les podcasteuses et les podcasteurs, sur quelles fonctionnalités on peut leur apporter pour les aider sur chacune des étapes.
Et du coup, je me permets de t'interrompre là, parce que là, tu es en 2020, c'est au moment aussi de l'explosion du podcast indépendant aussi.
Ouais.
Est-ce que c'était ça que vous aviez en tête? C'était à ces podcasteurs que vous vouliez venir en aide? Ou c'était on parle à tout le monde et,
On a toujours eu envie de toucher tout le monde. Mm-hmm. Et c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... on a des milliers de podcasteurs indépendants et en même temps, on est, en France en tout cas, l'une des boîtes qui travaille le plus avec les entreprises.
Ah ouais, d'accord.
Mais parce que c'est pas, pour moi, tu peux relier les deux.
Tu peux relier les deux, mais quand tu développes un produit, c'est difficile de parler à tout le monde. Enfin, j'imagine qu'il faut faire des choix au moment de ton...
Oui, mais le marketing, je crois qu'en fait, le marketing, et je crois surtout, la chance qu'on a, c'est que très souvent, les podcasteurs sont plutôt ouverts au sujet du marketing. Voire bossent déjà dans des boîtes de marketing pour beaucoup, etc. Enfin, on retrouve ce truc-là. Et donc, quand on leur parle le marketing, ils savent de quoi on veut parler. Alors après, on essaye de simplifier. On ne veut pas que ça soit... on est quand même sur quelque chose qui, normalement, doit te faire plaisir. Quoi. Même si ça reste pour beaucoup aussi parfois un boulot. Mais sinon, on essaye vraiment de rendre le marketing du podcast hyper simple.
D'accord.
Et notre but, c'est de donner les meilleurs outils et aussi les meilleures datas pour pouvoir aider les podcasteurs à faire croître leur audience et aller chercher cette audience. Donc c'est ça la grosse différence aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas une simple plateforme d'hébergement, on est une plateforme d'hébergement et de marketing du podcast.
Donc en gros, c'est quoi? L'objectif, c'est que vous êtes, une fois que le podcast a été conceptualisé, pas forcément créé, vous êtes de la mise en ligne à la
promotion.
La consommation, quoi.
Ouais, la promotion. La promotion, parce que, tu vois, à chaque étape de la promotion, on va essayer d'intervenir. On a un système, on a développé, je pense qu'on est l'une des seules boîtes au monde d'ailleurs, le seul hébergeur au monde, à avoir développé notre propre système de newsletter qui est intégré à Ocha. Ensuite, on a développé notre social media manager qui permet de planifier entièrement sa communication sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram.
Ouais.
On a un système qui permet de générer des clips vidéo pour faire la promotion avec un système de sous-titrage, les audiogrammes. Et on a aussi le Smart Link, qui est la page qui va référencer tous les liens pour retrouver tes plateformes de diffusion. Mais c'est là où, tu vois, on apporte aussi ce côté très technique qu'on aime bien chez Ocha. C'est, tu vois, par exemple, sur ce SmartLink, on s'est dit, en fait, j'aime bien parce qu'on aime relier le technique et le marketing. D'un point de vue du marketing, souvent, ce qui se passe sur ce type de page, parce qu'on n'est pas les seuls à le faire, mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu cliques, par exemple, sur Apple Podcast, tu te retrouves sur la page du show, sur Apple Podcast. Et donc, quand tu as retrouvé un tweet qui datait peut-être il y a 2 mois, qui parlait d'un épisode, et tu dis « Ah, cet épisode a l'air super cool, il faut que tu le retrouves. Mmh. » Bah, bon courage. Et en fait, là, tu perds plein de monde. Mmh. Tu vois, c'est, on dit toujours « Il faut que tu élimines les frictions en marketing. » Et bah, ça, c'est une super grosse friction. Ce qu'on a fait avec Ocha, c'est de dire « Vous savez quoi ? Nous, on va aller chercher le bon lien de votre épisode. On va faire nous-mêmes un robot qui va aller trouver le bon lien de votre épisode. » Et donc maintenant, sur ton Smart Link, quand tu cliques dessus, ce n'est pas la page du show, c'est la page de l'épisode sur Apple, c'est la page de l'épisode sur Spotify, sur Google, sur YouTube, etc. Voilà.
Et on a une idée de la consommation. J'imagine que vous êtes très data. Quelle proportion, je sais pas, d'auditeurs arrivent par, tout simplement, ils sont abonnés et ils reçoivent le ping sur leur appli de podcast, ou par le Smart Leaks, ou par... Vous avez une idée ?
Non, c'est hyper difficile d'avoir ça, tout simplement, parce que, justement...
Il faudrait que tu puisses les traquer tout du long, quoi.
Bah, en fait, le truc... alors, ça fait partie... L'attribution est un vrai enjeu qui nous intéresse beaucoup chez Ocha.
Et je pense que
l'attribution, c'est justement cette idée de pouvoir suivre... Par exemple, je vais te concrétiser tout ça. Mm-hmm. C'est, tu vois, pour cet épisode, tu vas certainement faire des posts sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est quoi le réseau social favori pour toi ?
Je pense que c'est Instagram.
C'est Instagram. Bon, bah, voilà. Instagram. Imagine, tu mets un lien. Alors, je crois que c'est encore compliqué de mettre des liens sur Instagram.
Non, on peut maintenant.
On peut maintenant. Okay. Ouais. Je suis plus Twitter. donc, tu vois, tu vas mettre un lien sur Instagram et. Et tu vois, tu vas savoir, grâce à Ocha aussi, que, mais puis tu le sais sur Instagram de toute façon, que ton post, il a été vu, j'en sais rien, 100 000 fois. Mm-hmm. Parce que tu as partagé ton lien SmartLink, l'idée, c'est que nous, demain, on puisse te dire, bah, écoute, ce lien, grâce à ce lien, tu as eu peut-être, sur tes 100 000, tu as eu peut-être 10 000. Et l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. Mm. C'est qu'une fois que tu as passé ces 10 000, on puisse aussi te dire, bah, écoute, sur les 10 000, il y en a tant qui sont partis chez Apple, tant qui ont cliqué sur Spotify, et voilà le nombre qui ont réellement joué ton épisode derrière.
Donc c'est ça le funnel d'auditeur que tu disais.
C'est ça le funnel d'auditeur et c'est ça l'attribution, c'est-à-dire de pouvoir suivre, par exemple, sur une publication et de comprendre réellement combien tu as eu d'écoutes, de downloads sur un épisode suite à une publication que tu as fait sur Instagram ou ailleurs. C'est d'ailleurs très intéressant en termes de publicité. Si demain tu veux faire un tweet sponsorisé, un post sponsorisé, c'est hyper intéressant. Et donc sur ça, tu vois, sur ça on travaille, mais il y aura toujours une problématique qui est que on ne peut pas savoir, on ne peut pas traquer toutes les sources, enfin la provenance des écoutes, puisque notamment quand tu ouvres ton application Apple Podcast, bah nous on ne peut pas savoir que tu as ouvert directement Apple Podcast, que tu as peut-être fait une recherche dans la search bar d'Apple et que c'est grâce à ça que tu as été découverte.
D'accord, ok. Et ça ne doit pas être évident aussi, parce que je veux dire, je sais pas, on est tous les deux utilisateurs par exemple d'iPhone.
Ouais.
Dès que tu installes une application, maintenant on te demande est-ce qu'on peut te traquer de A à Z.
Oui.
Et enfin, moi je sais pas, je suis désolée, mais par défaut je dis non.
Oui.
J'imagine que c'est. Enfin, il y a beaucoup plus de transparence maintenant en fait, sur le suivi de nos activités en ligne. Et du coup, j'imagine que le consommateur, je veux dire, de base, au sens où ce n'est pas des développeurs, etc., en étant un peu plus conscient, font...
Bah oui, non. En fait, sur ce sujet précis, oui et non. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que souvent, la problématique qu'il y a, c'est notamment vis-à-vis des cookies. Il y a aussi des sujets avec la RGPD en Europe. Mm-hmm. Mais surtout, le sujet qu'il y a, c'est de pouvoir, après, te pouvoir te recontacter vis-à-vis de ça. Vis-à-vis d'une action que tu as faite. Nous, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin
pas
de te recontacter. Nous, on a juste besoin d'enregistrer le fait qu'un utilisateur, et on ne veut pas savoir qui c'est, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc, c'est pour ça que c'est des choses qui sont tout à fait possibles de mettre en place. C'est juste de comment en fait, tu traques tes visites. Et tu vois, traquer tes visites, bah, tu as tout à fait le droit de traquer bien le nombre de personnes qui viennent sur ton site. Ce n'est pas un souci. Mmh. Par contre, savoir que c'est telle personne qui habite dans telle ville, etc., là, ça commence. Et qui a fait tel achat, et qui a machin. Là, oui, il commence à y avoir trop d'informations et on est plutôt safe sur cette partie-là.
Ta passion, toi, à la base, c'est quelque chose de très technique, c'est le code.
Ouais.
Du coup, de formation assez technique.
Ouais.
Aujourd'hui, tu es le CEO de Ocha. Comment est-ce qu'on passe finalement de champs d'action si différents à donc. Je ne sais pas si tu es ingénieur de formation
je suis informaticien.
Informaticien.
Ouais.
Le management d'une entreprise qui est en train de grandir. J'imagine qu'il y a eu des levées de fonds, qu'il y a eu toutes ces étapes finalement de la vie d'une entreprise. Avec en plus une passion, je ne sais pas si elle est naissante, mais en tout cas peut-être un petit peu nouvelle de la dernière décennie pour le marketing. Comment s'est opéré, je veux dire, en toi en fait même aussi ce changement
Écoute, c'est une très bonne question, difficile de répondre d'ailleurs. J'ai toujours entrepris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours entrepris, c'est que ma première boîte, je l'ai fondée pendant mes études. Et quand je suis sorti de mes études, j'ai continué cette boîte. C'est la boîte qui, s'appelle, qui s'appelait Radio King, que j'ai revendue il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'ai toujours entrepris. Donc, en fait, je crois que je ne me suis jamais posé la question de pourquoi, etc.
Ça s'est fait naturellement.
Oui, et puis je crois fondamentalement qu'on a tous des... moi, j'appelle ça des moments de, des zones de flow, tu sais, des zones dans, dans lesquelles tu te sens bien dans ce que tu fais. Et moi, il s'avère que je me sens bien dans le fait de pouvoir avoir cette créativité pour imaginer la vision d'une boîte dans son futur. Je me sens bien dans le fait de pouvoir accompagner des équipes et les aider à donner justement, à être dans leur flow aussi et à donner le meilleur d'eux-mêmes sur les zones qu'ils aiment, sur lesquelles ils aiment être.
Ouais.
Ouais, en fait, puis après, en toute honnêteté, je prends surtout beaucoup de plaisir à faire tout ça, quoi.
Ouais.
Et je le fais avec des personnes que j'adore, donc je passe, voilà, c'est...
Bah, t'as la passion, mais t'as quand même aussi, je sais pas, moi j'ai été catapultée dans un rôle de management. C'est pas inné chez tout le monde, enfin, tu vois ce que je veux dire.
Est-ce que
tu étais accompagné, je sais pas, t'as des coachs, des podcasts que t'écoutes, j'en sais rien. Comment ça se passe?
En fait, je pense que toute mon expérience à travers ma première boîte de Radio King
m'a permis
de beaucoup comprendre et d'apprendre sur le tas.
D'accord.
Beaucoup de choses. Ce qui fait que quand je suis arrivé à développer Ocha, j'étais beaucoup plus aguerri et j'avais déjà une idée assez claire de ce que j'avais envie de faire comme type de boîte, comme type de culture, avec quel type de valeur, etc. Et avec quel type de...
Personne.
Voilà. Et non, j'ai jamais eu vraiment de formation. Les seules formations que j'ai fait, c'est des trucs un peu de foufou d'entrepreneur, mais rien de
rien quoi, des hackathons, des trucs comme ça ou...
Non, des trucs. Je suis pas sûr que ça va intéresser tes auditeurs, mais c'est des trucs entre physique et mental où on te met un peu la tête sous l'eau, mais des trucs.
D'accord.
Rigolos, quoi.
Ah ouais. Voilà. D'accord. Des trucs un peu hardcore quand même.
Oui, mais rien de méchant. Je serais rien de méchant.
Aujourd'hui, donc, je le disais, on est à Podcast Movement, une grosse conférence.
Ouais.
C'est pas la plus grosse conférence en Amérique du Nord, qui se passe à Denver, donc dans mon jardin presque, aux États-Unis. C'est ton premier Podcast Movement ?
Ouais, totalement.
Et c'est le deuxième pour Ocha, c'est ça ? Odile Benafa était l'année dernière ?
Je crois que c'est même le troisième, parce qu'ils étaient à Las Vegas, ils étaient à l'édition aussi précédente.
D'accord. Voilà. Okay. Ocha aujourd'hui est présent aux États-Unis depuis un peu plus d'un an, avec l'embauche de votre directrice pour les États-Unis.
Head of US. Ouais,
Head
c'est
of
ça.
US. Ouais, je ne sais jamais comment on traduit ça. est-ce que tu peux m'expliquer un peu, je ne sais pas, comment est-ce que c'est devenu important ou évident, je ne sais pas, qu'il fallait se développer à l'international ?
Il est venu un moment où on a compris qu'on était très bien positionné sur la France. On a été... On est devenu leader sur la France et le marché français, il faut bien le reconnaître, même le marché francophone, parce qu'en réalité on touche même toute la francophonie, mais il n'est pas très grand ce marché. Il n'est pas très grand et c'est vrai que nous on a une ambition avec toute l'équipe Ocha qui est assez forte. Tu vois, on a envie d'aller extrêmement loin et on s'éclate dans cette ambition, qu'elle soit d'ailleurs business, produit ou whatever. Et c'est pour ça que ce qui était clair, c'était de toute façon le marché anglophone, parce que c'est sur les podcasts, on va plutôt se parler de langue que de pays.
Ouais.
Le marché anglophone, c'est le marché le plus gros en termes de podcasts. Aujourd'hui, 59% des podcasts sont en anglais.
D'accord.
Et on sait très bien que la majorité d'entre eux sont faits ici aux US, parce que le podcast est né ici aux US.
Ouais.
Et donc, plutôt que d'essayer de nous diversifier, comme beaucoup de boîtes de start-up françaises ou européennes peuvent faire, d'essayer tu vois, de toucher évidemment les pays les plus proches, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, etc. On s'est dit on va faire un seul pays, mais on va faire le plus gros et on va faire les US. Et parce que c'est extrêmement compliqué, même pour, je crois, c'est extrêmement compliqué, même quand tu veux tu vois, te développer sur l'Angleterre, l'Allemagne ou autre, c'est à chaque fois des cultures différentes, c'est à chaque fois des process différents, c'est à chaque fois... Et donc, ça prend énormément de temps et c'est très complexe. Mmh. Et on le voit même avec les États-Unis, évidemment, à quel point c'est difficile de comprendre cette nouvelle culture et voilà, de pouvoir y entrer. Donc, c'est pour ça, voilà, on s'est dit, ce sera les US. Ouais. On va être focus sur ce pays. Mm-hmm. Et on va tout miser sur ce pays pour nous développer là.
Et vous avez une cible en particulier sur les États-Unis initialement?
Oui, écoute,
c'est un tellement grand pays, j'imagine que tu ne peux pas aller partout.
Écoute, on est plutôt sur les indépendants. Mm-hmm. On a aussi quelques cibles géographiques que je ne pourrais pas donner, mais les US sont grands et c'est bien de cibler aussi géographiquement les targets que tu as envie d'avoir.
Ouais.
Même si on fait quand même un peu d'entreprise, on a une très grande entreprise du S&P qui est MetLife qu'on a réussi à signer, donc on fait aussi de l'entreprise, mais notre premier objectif c'est les indépendants.
D'accord. Vous avez levé des fonds pour partir aux États-Unis ou...
On n'a pas levé des fonds pour partir aux États-Unis. On a levé des fonds en 2020. On a fait une levée de 1,2 million.
Okay.
On a d'autres fonds qui font qu'on arrive à nous développer.
Ocha a sponsorisé hier un track sur le marketing et le podcast. On a pu assister à pas mal de talks de certains de vos ambassadeurs de marque, de ton équipe et de toi également. Tu as annoncé toi-même pas mal de nouveaux outils et features qui arrivent sur Ocha. On a parlé de métadonnées, on a parlé de mots-clés, on a parlé d'intelligence artificielle, le truc dont tout le monde parle dans cette conférence. Avant de nous les présenter, est-ce que tu veux m'expliquer peut-être pas d'où viennent les idées en fait, de ces features? Comment est-ce que vous identifiez les pain points, la nécessité finalement de développer de nouvelles choses?
Très intéressant. Je crois on a vraiment deux axes, et le deuxième axe est tout à fait nouveau, mais on a vraiment deux axes.
Ouais.
Le premier axe, c'est on est extrêmement focus sur répondre à notre mission, c'est-à-dire réellement, parce que c'est pas du bullshit, c'est vraiment comment on fait pour aider les podcasteuses et les podcasteurs à faire grossir leur audience.
Ouais.
Et donc, quand on est sur ce principe-là, la question qu'on se pose, c'est ok, quel est le premier moyen, ou quels sont les moyens dans tous les cas, que les auditeurs utilisent pour trouver de nouveaux podcasts.
Mmh.
Parce que c'est forcément un endroit où tu as, en tant que podcasteur et podcasteuse, intérêt d'être, et intérêt d'être extrêmement bien visible. Et on s'est aperçu, notamment, que les réseaux sociaux sont importants, mais par exemple, plus récemment, on a compris à quel point les applications de podcast étaient aussi très essentielles sur la visibilité, et notamment à travers la recherche, la barre de recherche que tu peux avoir, parce que finalement, on remarque assez simplement, et c'est vrai que ça peut paraître logique quand on le dit comme ça, mais c'est vrai que quand tu recherches un nouveau podcast, tu ouvres ton application de podcast, tu dis ce que tu as envie de trouver, t'aimes le cyclisme, tu vas taper cyclisme, t'aimes le cinéma, tu vas taper cinéma, et là, tu vas tomber sur des podcasts, et tu vas un peu... scroller, regarder les covers, les descriptions, et puis te dire, ah tiens, celui-là, il a l'air intéressant, et je vais commencer à l'écouter. Et donc, tu vois, on s'est dit, sur cette partie-là, et notamment sur la partie search, dans les applications de podcast, il faut que nous, on fasse quelque chose.
Mmh.
Et c'est extrêmement compliqué, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'on puisse aider là-dessus, mais on a donc développé, on l'a annoncé là, on a développé une nouvelle fonctionnalité qui va permettre, parce que ce n'est pas encore sorti, mais qui va permettre à nos podcasteuses et podcasteurs de pouvoir suivre leur visibilité sur ces recherches, sur les mots-clés qui sont importants pour eux.
Le référencement, en fait, dans les plateformes.
Le référencement. En fait, c'est on vient appliquer ce qui est simplement ultra connu dans le monde du digital quand tu as un site web. Mmh. Quand tu as un site web, tu veux être visible sur Google, tu penses à tes mots-clés et tu vas souvent avoir un outil qui va te permettre de voir si tu es bien référencé sur tel mot-clé ou tel mot-clé. Et on a fait la même chose pour le podcast. Sur Apple Podcast et sur Spotify, on va permettre de dire, écoute, Anne Fleur, ton podcast, il est en 10e position sur le mot-clé podcast, et on va t'aider à traquer cette information-là pour que tu puisses voir si les efforts que tu vas faire, toi, d'un point de vue éditorial sur tes métadonnées, vont te permettre d'augmenter ta visibilité sur ce mot-clé-là.
Et on est d'accord que du coup, là, on parle des métadonnées, donc c'est le titre, la description, c'est les gros, gros champs en fait, sur lesquels tu joues.
C'est ça.
Il n'y a aucune technologie au sein des hébergeurs, je vais dire pour l'instant, qui est capable d'aller chercher dans le contenu audio. On sait qu'on est capable, il y a plein d'outils de transcription, etc. Mais il n'y a rien qui est capable, côté, Spotify, Apple, etc., d'aller... tu as plein de transcriptions automatiques maintenant, finalement, des contenus, et d'aller chercher, en fait, dans ce contenu-là, qui est finalement ta vraie patte en tant que podcasteur.
En fait, on sait aujourd'hui, Apple notamment a déjà intégrer une solution de transcription. Alors c'est pas, ça ne fonctionne pas avec tous les podcasts. Oui, bien sûr.
Ah ouais,
si tu tapes, j'invite tous les podcasteurs qui sont curieux de faire ça, si tu tapes le nom d'une célébrité, tu vois, tu mets Jonathan Cohen, tu tapes ça sur Apple, tu vas voir, tu as des... Tu as à la fois en résultat, tu auras faut regarder surtout sur la partie épisode, mais tu auras à la fois des titres d'épisodes avec le nom Jonathan Cohen en titre, ouais. Et puis parfois tu vas pas avoir Jonathan Cohen dans le titre, mais par contre tu vois, il va te mettre la transcription parce que il aura compris que ça parlait de ça, et donc c'est assez puissant. Tu le vois?
Non, je le vois pas, mais je te crois.
Je te montrerai, si tu vois.
Mais je pense que c'est un nom trop commun aux États-Unis.
Jonathan Cohen.
Parce que moi,
oui, bien sûr. Tout est en US, c'est pour ça.
Il faudrait que j'en détaille un autre. Mais oui.
Sur ma version FR, ouais. Tu verras.
D'accord.
Donc, oui, la transcription est déjà utilisée pour la recherche, de toute façon, par Apple.
Ah, ouais, d'accord. Donc, ça existe. Ok, donc c'est intéressant. Okay.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, aussi même dans ce que tu vas dire à l'intérieur de ton podcast, dans ton audio, c'est important d'avoir aussi ces mots-clés-là qui peuvent te faire voir, mais au-delà de ça,
a posteriori,
c'est très intéressant de travailler aussi sur tes mots-clés, parce que nous, on le voit bien.
C'est intéressant, la démonstration que tu as faite.
Non, mais on le voit bien que c'est vrai que parfois, quand tu postes un épisode, tu sais pas quoi raconter en description. C'est compliqué, tu sais pas quoi raconter en description. Et malheureusement, parfois, ta description, elle est extrêmement courte. Et c'est là où c'est dommage, parce que si justement tu fais cet effort d'utiliser des mots-clés qui sont pertinents avec le contenu, etc., tu t'ouvres sur une possibilité. Effectivement, l'étude qu'on a menée, nous, sur Apple, montrait une chose qui peut paraître basique, mais qui pour moi est hyper importante, qui est que sur toutes les recherches qu'on a fait, on a fait 1000 recherches sur 1000 mots-clés. Et sur toutes ces recherches-là, on a regardé le top 10. Le top 10 des podcasts qui sortaient dans les 10 premiers résultats. 97% de ces podcasts avaient au moins une fois le mot-clé que j'ai recherché dans leurs métadonnées. C'est-à-dire que même si t'es un podcast... Mais oui, c'est QFD. Ça veut dire que même si t'es un podcast qui est très, très, très populaire, si tu n'utilises pas le mot-clé qui va bien dans tes métadonnées, tu ne ressortiras pas. Ou sinon, tu ressortiras que quelques mots-clés, et puis pas sur plus de mots-clés qui t'étendent ta visibilité.
C'est ce que je te disais hier avec Génération Podcast. Je pense que j'y faisais pas trop attention au début, la première année. Tu tapais Génération Podcast. En fait, c'est des mots qui sont tellement communs, finalement, dans le monde du podcast, que je le démarquais pas assez dans la description, etc. Et donc, tu ne sortes... Enfin, je veux dire, il fallait que tu scrolles, mais indéfiniment, pour trouver Génération Podcast dans les podcasts. Ce qui est assez fou.
Pas répondu à la deuxième partie. Ouais, en fait, et donc, je te disais, il y a deux choses qui nous intéressaient. À la fois, comment on peut répondre à cette problématique d'aider les podcasteuses et les podcasteurs à croître leur audience. Donc, tout ce qui est possible. Et on réfléchit beaucoup, c'est selon les canaux d'acquisition, c'est-à-dire les différents moyens que tu as pour trouver de nouveaux éditeurs. Et on réfléchit beaucoup là-dessus. On réfléchit aussi sur les différentes étapes du funnel, comme je le disais, notamment sur la fidélisation, comment on peut aider sur la fidélisation des auditeurs, etc. Et puis la deuxième partie, qui est beaucoup plus récente, qui est arrivée, depuis fin d'année dernière ou début de cette année, c'est on s'est rendu compte que on pouvait aider les podcasteurs sur un autre biais, qui est les aider à gagner du temps et gagner de l'efficacité aussi sur différentes choses grâce à l'IA. Personne ne s'attendait à ce que l'IA débarque comme ça. Je crois que tous ceux qui sont dans le domaine de la tech diront ça, sauf ceux qui travaillent chez OpenAI.
Ouais.
Mais c'est clair que ça a changé quelque chose.
Ça date de quand le boom de ChatGPT?
Mais ChatGPT, tu sais qu'on y a tous accès depuis début d'année. Hein.
Ouais, c'est ça. Officiellement, enfin, c'est 2023, c'est
tout
récent.
Ah oui, c'est hyper récent.
Ouais,
c'est,
moi, ça fait que quelques mois que j'utilise un peu pour les podcasts.
C'est hallucinant, parce qu'avant, on se parlait en 2022, tu vois, mi-2022, on commençait à se parler d'IA plutôt qui générait des images comme DALL-E ou ce genre de choses. Mais début 2023, on a commencé à découvrir ChatGPT. Ouais. Et là, en 5 jours, ils font 1 million d'utilisateurs. Ouais. Incroyable. Et ça change tout. Ça change tout et c'est ultra intéressant. Et je vois pas comment on peut passer à côté. Je vois pas comment on peut ignorer ce mouvement. Comme pour moi, c'est comme ignorer le mobile ou Internet. Tu vois, c'est impossible. Donc, il était clair et important pour Ocha de dire, ok, comment on revoit un peu notre vision, parce qu'elle est, ça nous permet de la revoir et c'est hyper intéressant.
Ouais.
Et comment on va intégrer l'IA demain dans notre service pour rendre finalement à la fois plus simple certaines tâches, voire plus efficiente à mon sens aussi pour certaines. Et puis comment on va pouvoir aider les podcasteurs sur certains domaines justement sur lesquels ils avaient plus de difficultés, comme notamment par exemple l'analyse de données. Mmh. C'est pas un domaine qui est super facile à comprendre.
L'accès, ouais.
et pour le coup l'IA peut t'aider sur ça. Mmh. Donc on travaille dans ce côté là. Il y a une chose qu'on a annoncé donc ici à Podcast Movement, c'est qu'on est en train de travailler dans un premier temps sur la transcription. Mmh. Je suis très content de ça parce que je pense qu'on va avoir l'un des services qui marche le mieux en transcription, FR notamment. Il marchera très bien sur les US aussi, mais c'est vrai que les transcriptions FR, c'est compliqué de trouver des bons services. Mmh. Et je pense qu'on va avoir l'un des meilleurs et l'un des plus rapides. Donc ça, c'est super parce qu'on passe par une super boîte pour ça. Et tu vas avoir ta transcription entière sur Ocha. Et grâce à ça, grâce à cette transcription de ton épisode, on sera capable de te proposer un titre qui te va bien. Mmh. On va te proposer 3 titres et puis tu pourras en faire d'autres si tu veux. On va te proposer une description, on va te proposer des chapitres, on va te proposer des keywords, on va te proposer d'écrire ta newsletter et tout ça en un clic. Quoi. Ouais. Donc ça va te faciliter la vie.
Ouais, ça fait gagner un temps monstre parce que même si il faut souvent refaire un petit tour dessus, parce que moi je trouve le style de ChatGPT, je trouve ça génial pour plein de choses et je l'utilise notamment pour des fonctionnalités comme tu mentionnes. Ouais. Mais je trouve le style rédactionnel lourdingue.
Ah,
tu sais, genre, alors on utilise les mots inspirants et bienveillants à gogo, et, tu vois. Et je sais pas, j'ai pas d'exemple du coup là qui me vient en tête, mais j'ai fait un essai hier. Je voulais générer la description. Forte des instructions, enfin ce que j'avais appris dans ta session pour l'épisode de le premier épisode de la saison 5 de French Expat qui sort la semaine prochaine. Et il fallait sortir un peu les violons, quoi, tu vois. Et en fait, je trouve ça hyper dur. Et si tu as, je sais pas si tu as un avis ou des conseils là-dessus, de réussir en fait à faire en sorte que l'IA adopte un ton qui t'est propre ou qui te ressemble, quoi, tu vois.
Bien sûr, mais c'est marrant, c'est ce que m'a demandé une des participantes après cette conférence. M'a dit, mais est-ce que ça sera possible de lui spécifier le ton, le style, la voix qu'on a envie d'avoir dans la description.
Ouais. D'accord.
Et donc je lui dis, en fait, le truc, c'est que on va utiliser déjà certaines données que vous fournissez.
Ah, va se baser sur les descriptions d'avant.
Voilà, sur les descriptions notamment de ton show que tu as fait, par exemple, toi-même.
Ou d'autres épisodes.
Ou même sur ta transcription, parce que ta transcription, la façon dont tu parles, c'est un peu la façon dont tu as envie souvent que ta description soit aussi, tu vois, pour garder ce côté naturel.
D'accord.
Après, alors pour répondre à ça, aussi à ton sujet, tu vois, il y a un truc qu'on expliquait aussi, c'est que tu peux donner à ChatGPT un texte que tu as déjà écrit dans ton style, tu vois, par exemple un super post sur LinkedIn.
Et lui dire
que t'as
à la manière de.
Et tu vas lui dire, réécris-moi une description pour cet épisode, dont je te donne aussi le transcript, by the way, et essaie de m'écrire avec ce style-là. Ouais. Avec ceci là.
Et il arrive, il est hyper fort.
Ouais, bien sûr. Tu peux même lui demander, tu sais, tu peux juste, pour que ça soit réutilisable facilement, envoie-lui juste un texte de toi.
Ouais.
Et demande-lui de te créer un prompt qui te permettrait de recréer un texte avec le style que tu lui as donné.
C'est puissant quand même.
Et il va te dire, je pense que c'est un peu casual, il y a des emojis, il y a machin et tout, c'est un peu fun, mais en même temps c'est sérieux, machin et tout. Il va te faire un prompt. Et c'est super.
Bien,
et après, tu réutilises le prompt comme tu veux.
D'accord. Ok, donc du coup, en gros, là, les deux gros développements de Ocha, qui sont clairement des choses, des top priorities pour les podcasters, donc c'est l'IA, gain de temps, et donc qui te permet d'amener toujours, avec l'objectif toujours en tête, d'amener ton podcast à plus d'auditeurs et faire croître ton audience, le référencement sur les plateformes d'écoute, ayant toujours cet objectif de faire découvrir ton podcast à plus de monde.
En fait, on a plein d'idées sur ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire.
C'est pas les idées qui manquent.
Non, c'est pas les idées. Franchement, et pour le coup, je remercie aussi tous les podcasteurs et podcasteuses qui nous aident en nous donnant beaucoup de feedback. Ouais. Et on a une plateforme qui est dédiée à ces feedbacks.
Un peu comme un Slack
C'est encore mieux parce que ils peuvent voter les uns pour les autres sur leurs idées. Et donc ça remonte en haut. Et nous, on prend ça aussi en compte dans nos choix.
Ouais.
C'est hyper intéressant. Et bien sûr, après, il y a des choses. Tu vois, ce qu'on vient d'annoncer, PSO, qui est Podcast Search Optimization, qui est un outil de tracking.
Ouais.
Et ça, aucun de nos podcasteurs ne pouvait nous le proposer. Et c'est ça aussi notre job chez Ocha,
d'innover, de
comprendre ce qui est possible et pas possible.
Ouais.
Parce que pour le coup, cette fonctionnalité-là, je pense qu'on ne va pas l'avoir de sitôt chez d'autres hébergeurs, à tel point qu'elle est complexe. Et c'est pour ça qu'on est très fiers de développer aussi ça au service des podcasteurs et podcasteuses qui nous font confiance.
Génial, ouais, bravo.
Trop bien.
Et alors du coup, c'est quoi vos objectifs là à Podcast Moment? C'est présenter, vous allez vous présenter tout ça, c'est prendre le pouls aussi, j'imagine, de vos utilisateurs ou de votre bassin d'utilisateurs potentiels aux US?
Ouais, c'est de développer notre notoriété, parce que c'est vrai qu'en France, on est très connu, et ici, on est pas du tout connu. Ouais. Donc, on fait quelques coups pour essayer d'être beaucoup plus visible. Ouais. Voilà, d'être sur le devant de la scène. On était très contents, notamment, d'avoir une super conférence avec YouTube, notamment, ils ont pu annoncer aussi quelque chose qu'ils avaient envie d'annoncer là-dessus. Donc oui, notre but là-dessus, c'est clairement là, sur un événement comme ça, c'est de développer notre notoriété, et puis de montrer qui on est réellement, tu vois. C'est de montrer que bah, nous, chez Ocha, la qualité prime, le contenu prime aussi. Si vous venez à des conférences, on n'est pas là pour vous vendre notre produit, mais on est là avant tout pour vous donner des informations pour lesquelles ça soit à votre service. Après, que vous soyez chez nous ou pas chez nous, c'est pas un souci. Et puis, faire comprendre aussi un peu nos valeurs, notre culture. Tu vois, on a des valeurs très fortes et des engagements aussi forts chez Ocha sur certains domaines. Et on aime bien les communiquer, parce que ça nous semble important aussi de faire savoir ces engagements-là ou ces valeurs-là qu'on a chez Ocha. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on se retrouve le plus chez les boîtes américaines parfois, ce type de d'engagement en tout cas. Ouais.
Et la personnalisation du suivi aussi. J'ai testé plein d'hébergeurs et j'ai commencé par les États-Unis puisque c'est là que j'étais.
Ouais.
Et je trouvais que c'était une des grandes frustrations, c'est ce qui m'a fait passer après sur le marché français, c'est qu'on est un peu un numéro anonyme finalement, et c'est difficile de tisser un lien, tu vois, avec une personne qui te suit, qui suit tes progrès, qui suit ton succès ou non, enfin qui peut te conseiller.
Tout à fait.
Et c'est assez frustrant.
J'imagine.
Pour terminer, j'aimerais bien te poser quelques questions sur tes écoutes de podcast.
Ouais.
Une petite tradition dans Génération Podcast. Quel est le premier podcast que tu as écouté? Tu as une idée?
Le premier podcast que j'écoutais, je pense. Alors, c'est soit Feu Nouvelle École. Soit, à mon avis, c'était aussi peut-être 2 heures de perdu, dont je suis toujours aussi fan.
Des très chouettes podcasts, effectivement, et Nouvelle École qui est toujours en ligne, mais qui est terminée depuis quelques années déjà.
Il est toujours en ligne.
Ouais, toujours en ligne. Ouais, parce qu'il y a des épisodes super intéressants.
Ouais, bien sûr.
À l'inverse, quel est ton dernier binge? Dernier truc que t'as pas pu poser, quoi, que tu voulais enchaîner.
Je suis très fan, en toute honnêteté, des podcasts de Mathieu Stéphanie. J'adore les interviews qu'il peut faire avec certaines personnes. Ah ouais, je trouve ça hyper, hyper intéressant.
Tu veux définir, c'est quoi? C'est Génération Do It Yourself?
Ouais, Génération Do It Yourself, où t'as des interviews. Alors voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu sélectionnes souvent les personnes que t'as envie d'écouter et tout, mais... Voilà, je trouve qu'il a une bonne sélection justement des personnes qu'il va chercher, et c'est hyper intéressant de pouvoir avoir ce temps d'approfondir les sujets. Il y a plusieurs, j'ai encore en tête certains épisodes.
Ouais, qui t'ont marqué.
Ouais, bien sûr, parce qu'il y a des sujets, notamment...
Alors,
le sujet, je crois que c'est Dr Alexandre, si je ne dis pas de bêtises, mais sur l'IA notamment.
D'accord.
Un épisode sur l'IA avec un docteur là-dessus. Et je, hyper intéressant, moi qui suis un fan de d'IA justement et qui m'intéresse beaucoup à ce sujet.
Ouais.
Hyper intéressant. Intéressant d'avoir sa vision.
Si je retrouve les références que tu nous partages aujourd'hui, je les mettrai dans les notes de l'épisode pour mon référencement. Les podcasts, ça s'écoute seul ou accompagné?
Seul.
Uniquement seul?
Ouais, uniquement seul.
Tu mens, tu m'as dit que t'écoutais Simon Lapin.
Alors voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que le seul podcast que j'écoute de façon accompagnée, c'est Simon Lapin ou Petit Loup. C'est les deux autres podcasts que je peux écouter sinon.
Donc tes enfants, dès le plus jeune âge, ils sont tombés dans la marmite.
Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ouais, clairement. Et ils adorent ça, donc je suis hyper content. Et donc voilà, j'essaie de leur faire découvrir des différents podcasts comme ça.
Ouais, trop cool. Généralement, je demande plutôt long ou court les podcasts, mais du coup, les podcasts de Mathieu Stéphanie, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des formats assez longs, de 2-3 heures facilement. Est-ce que tu as un genre favori, du coup, de ce que tu me dis, à part Simon qui est de la fiction? Tu es plus sur l'interview?
Oui, je suis plus sur l'interview et
business, entrepreneuriat.
Plutôt business. Voilà.
D'accord. Et est-ce que, je sais pas, tu peux nous faire part de ta dernière reco que tu as eu envie, je sais pas. Moi perso, c'est quand j'écoute, j'envoie tout mon répertoire WhatsApp.
j'ai écouté le podcast Comment t'as fait, qui alors j'aurais pas le nom, mais j'ai changé avec lui, je suis désolé, c'est pas très poli, mais j'ai plus son nom. Mais
Julien Raton.
Ah exactement, merci.
Je l'ai reçu il y a pas longtemps dans l'entraîne.
Tu me souviens.
Okay. Qui a écrit un bouquin d'ailleurs là-dessus.
Qui a fait un bouquin là-dessus, ouais. et je trouve son podcast très sympa aussi, ouais. et il interviewe très bien aussi, ouais. Donc voilà, je recommande Comment t'as fait.
Ok, et eh ben super. Est-ce que t'as un dernier mot de la fin, je sais pas, un mantra sur lequel tu as envie de te baser pour l'année à venir aux États-Unis ou ailleurs, enfin je sais pas, vas-y.
Non, je écoute comme tu je pense que tu as aussi pas mal de podcasteurs et de podcasteuses qui t'écoutent, j'ai envie de dire juste éclatez-vous en faisant du podcast et faites de plus en plus de podcasts. Moi, je suis un fervent auditeur de beaucoup de podcasts, donc voilà.
Donc, on peut t'envoyer nos podcasts et dire Maxime.
Oui, bien sûr. Tu sais que je les écouterai tous, évidemment, évidemment.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci Anne-Fleur, c'est super.
Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Maxime Piquette pour sa disponibilité, pour cette chouette rencontre et pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. J'espère qu'il en est de même pour vous aussi, que vous aurez appris quelques petites choses et que le référencement de vos podcasts va vous permettre de décoller vous aussi. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, dans la vraie vie, sur Slack, à la machine à café, que sais-je, ou sur les réseaux sociaux. Chaque partage compte énormément. Bah oui, c'est pas parce que c'est la dernière saison de Génération Podcast que j'ai pas envie que vous l'écoutiez. S'il vous reste encore 30 secondes, rendez-vous sur Spotify et Apple Podcast, 5 étoiles et un petit mot, ça compte énormément, je les lis tous avec beaucoup d'intérêt, et puis ça m'aide à progresser. La semaine prochaine, on continue notre plongée dans l'univers du podcast aux États-Unis. Cette fois-ci, ce sera une interview en anglais. Je devrais pouvoir vous sortir le transcrit en français pour ceux qui veulent le suivre aussi. Et nous parlerons d'intelligence artificielle au service du podcast. Merci encore de nous avoir écoutés. Très belle journée, très belle fin de semaine et donc à jeudi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.